On retrouve donc ce roman de Michel Houellebecq, Sérotonine. Il est publié chez Flammarion, c'est évidemment un événement. Mais au-delà de cet événement, l'homme Houellebecq est un phénomène. Pour en parler, je suis en compagnie de mon camarade Aurélien Bélanger, car on peut découvrir que l'un des livres d'Aurélien Bélanger a été consacré à Houellebecq. C'est un ouvrage de jeunesse, hein, Aurélien. Il a été publié en 2010, on en lira tout à l'heure quelques extraits. À côté de vous, nous sommes en compagnie d'Agathe Novak-Lechevalier. Bonjour, vous êtes professeur de littérature et vous avez publié un ouvrage intitulé « Houellebecq, l'art de la consolation ». J'ai envie de vous proposer un petit exercice d'un homme extrêmement célèbre, Houellebecq. Mais puisque vous êtes professeur de littérature, si vous deviez présenter Houellebecq à un étudiant qui n'avait jamais rien lu de lui, que diriez-vous, Agathe ?
Je dirais que c'est quelqu'un, Houellebecq, qui s'est installé maintenant vraiment dans le paysage français, au point qu'il est devenu l'un des écrivains français les plus représentatifs de l'époque, mais qu'il est arrivé au début des années 90 complètement de nulle part. C'est quelqu'un qu'on n'attendait pas du tout, qui a bousculé complètement le paysage littéraire de l'époque, qui était pas du tout destiné à devenir écrivain. Il avait une formation scientifique, ce qui est pas inintéressant à savoir. Et puis surtout que c'est quelqu'un qui a commencé comme poète. Plus précisément, en 91, Houellebecq fait son entrée en littérature et il publie successivement un essai sur Lovecraft, d'abord, une sorte de ce que j'appellerais un otni, un objet textuel non identifié, qui est à mi-chemin entre poésie et essai, qui s'appelle « Rester vivant, méthode ». Et puis aussi un premier recueil de poèmes qui s'appelle « La poursuite du bonheur ». Peut-être que le plus emblématique dans tout ça, c'est le fameux « Rester vivant, méthode », dans lequel Houellebecq dit deux choses qui me semblent essentielles pour le comprendre. La première, c'est que pour lui, la littérature, c'est une question de survie. Et qu'on peut se sauver en écrivant, comme on peut se sauver aussi en lisant. La littérature n'est pas un à côté, n'est pas un métier, n'est pas quelque chose de secondaire. C'est vraiment quelque chose qui nous sauve et qui permet de vivre. Et puis la deuxième chose que dit Houellebecq dans Rester vivant, c'est que c'est une sorte de manifeste littéraire qui donne des conseils à un jeune poète. Et il dit dedans, toute société a ses points de moindre résistance, ses plaies. Mettez le doigt sur la plaie et appuyez bien fort. Ça, c'est le projet littéraire de Houellebecq au départ, dès sa première publication. Et je pense que c'est très représentatif de l'ensemble de son œuvre. Ensuite, évidemment, on va oublier que Houellebecq a commencé comme poète. Il va d'abord se faire un peu connaître en 94 avec Extension du domaine de la lutte, mais qui sera un petit succès critique d'estime. Et puis la grande explosion qui va du coup l'imposer dans le paysage littéraire comme romancier, c'est Les particules élémentaires en 98, qui enclenche en même temps la première des grandes polémiques houellebecquiennes et qui va être la première d'une longue série.
Aujourd'hui, Houellebecq est, avec certitude, l'écrivain français le plus célèbre dans le monde entier.
Oui. Ah oui, très clairement. Oui. Ça, c'est un fait. C'est l'écrivain qui a été le plus traduit à l'étranger. Dès que à l'étranger, on parle littérature française, on parle Houellebecq.
Étudié à l'université, puisque c'est votre cas, Agathe Novak-Lechevalier, un cahier de Lerne en préparation est sur Michel Houellebecq.
Fait déjà, publié.
Publié et un nouveau roman, donc Sérotonine, qui est ce roman qui fait aujourd'hui l'actualité. Aurélien Bélanger, si vous deviez nous dire quelques mots sur ce roman.
Alors, Sérotonine, pour ceux qui ont lu Extension du domaine de la lutte, c'est un remake d'Extension du domaine de la lutte. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est l'histoire d'un ingénieur agronome dépressif. On va suivre à la fois l'histoire de sa dépression et une petite vue en coupe des problèmes de l'agronomie contemporaine. C'est un roman qui est, je dis que c'est un remake du premier, parce que Extension du domaine de la lutte, qui est vraiment, qui acquis très vite le statut d'un livre culte, c'est un livre assez exceptionnel, et dès qu'on le regarde un peu sérieusement, on comprend que ça part dans tous les sens, que ça mêle une dizaine de types de récits, des fables animalières à la La Fontaine, des considérations scientifiques, des discours quasi marxistes sur la sexualité, plein de choses, et Houellebecq le refait 30 ans plus tard de façon finalement beaucoup plus savante, mais c'est assez proche de ça. Il y a des parties strictement de romans policiers, il y a des parties de romantiques, il y a des parties quasiment à la Pérec sur le ce que c'est qu'une dépression, ce que c'est que ne rien faire pendant une journée entière et regarder un mur. Et mis ça bout à bout, ça fait un roman qui, à mon sens, je sais pas si c'est son meilleur, en tout cas c'est celui avec lequel il renoue quelque chose, il retrouve quelque chose d'une geste un petit peu oubliée qui s'était peut-être perdue dans les deux précédents, où la rencontre, on va dire quasi sociologique entre Houellebecq et la France avait peut-être atténué une certaine veine intimiste du romancier.
Et alors, là aussi, Aurélien Bélanger, qu'est-ce qu'il a de houellebecquien, ce roman? Qu'est-ce qu'il a de particulier, si vous deviez le situer à la fois dans l'œuvre de Houellebecq et puis parmi les autres romans contemporains?
Bah, une anomalie spontanée et profonde, il est exceptionnellement drôle. Il y a même un moment, le lisant, je me suis dit, c'est plus du roman, c'est du stand-up, en fait. Quasiment toutes les pages, il y a une phrase, et le pire, c'est qu'on s'en souvient hyper bien. Alors, c'est souvent des clichés racistes sur les Hollandais. Les Hollandais sont des sortes de putes de la mondialisation. Ce n'est pas un vrai pays. C'est des gens qu'on voit dans les restaurants qui s'installent à n'importe quelle table. Ou alors cette considération...
Oh, ça, c'est un type d'humour.
Que ce restaurant était tellement particulier qu'il y aurait, on ne pouvait imaginer autre chose qu'un Belge à l'intérieur. Bon, des choses comme ça qui, mis bout à bout, forment une sorte... Alors c'est drôle, c'est très problématique, c'est pas politiquement correct. Mais mis bout à bout, il se dit, ah, en fait, oui, il a raison. Si dans un restaurant touristique du sud de l'Espagne, les Allemands restent à leur table et les Belges restent à leur table, oui, effectivement, la construction européenne est extrêmement mal en point. Donc, en fait, derrière la blague, il y a une vision du monde, mais elle est égayée de façon assez amusante.
Agathe Novak, Le Chevalier, ce roman de Houellebecq, comment le situez-vous dans son œuvre?
Ben, je pense que c'est un roman où, en effet, on retrouve tout ce qu'on aime quand on lit Houellebecq et qu'on aime les romans de Houellebecq. C'est-à-dire qu'en effet, c'est extrêmement drôle. Malgré tout, c'est aussi extrêmement bouleversant et pathétique. Évidemment, comme tous les romans de Houellebecq, ça finit plutôt mal. Mais il y a aussi des choses nouvelles. Déjà, c'est aussi un grand roman d'amour. C'est vraiment une réflexion sur le sentiment amoureux et sur l'idée que dans la vie, quand on laisse passer l'occasion du bonheur, bah, c'est terminé. Elle ne revient pas et on a raté sa vie et que donc il faut être attentif à ça parce que voilà, si on laisse passer, c'est fini. Donc il y a toute cette dimension-là aussi qui fait pendant au côté extrêmement comique. Et puis, il continue son exploration de la France. Et en effet, il renoue avec des choses qui étaient moins présentes, sans doute, dans Soumission. Là, c'est vraiment l'exploration du monde agricole, avec l'idée, notamment, très forte dans le roman, que ce qui se passe en ce moment avec les agriculteurs en France, c'est comme un immense plan social invisible et silencieux, qui ne donnera jamais lieu à un reportage sur BFM, mais que dont le roman, justement, rencontre.
C'est peut-être là où on quitte la réalité, parce que chaque roman, en tout cas depuis le dernier, donc c'est le second où on a ce phénomène-là. Le second, il est intervenu juste avant l'attentat contre Charlie Hebdo. Il s'appelait Soumission. Et dans Soumission, il était question d'une prise de pouvoir politique par l'islam suite à une émeute. Et là, on se retrouve avec Sérotonine, donc ce nouveau roman de Michel Houellebecq, Agathe Novak, Le Chevalier, avec une situation qui est une situation qui semble en partie prophétique.
Alors, prophétique, moi, ça, enfin, le mot de prophétisme me fait rire à chaque fois par rapport à Houellebecq. Il l'a d'ailleurs lui-même récusé à de très nombreuses reprises. Bon, c'est évidemment quelque chose que je réfute parce que ça me semble absolument pas rationnel. Mais en revanche, ce que je pense vraiment, c'est que Houellebecq montre une fois de plus qu'il est en profonde empathie avec l'époque, avec la société actuelle et par-dessus tout avec la souffrance des gens, avec tous ces laissés pour compte qu'il décrit depuis Extension du domaine de la lutte, qui sont les laissés pour compte du système capitaliste libéral et qu'il représente ici de manière extrêmement extrêmement émouvante.
Et donc on a affaire effectivement à un livre qui fait écho à l'actualité, l'actualité par exemple des Gilets jaunes, ce qui est assez étonnant parce que on va entendre Michel Houellebecq et justement il se dit coupé de cette France-là.
La deuxième France, là, dont vous parlez, c'est-à-dire la France qui est périphérique, qui hésite entre Marine Le Pen et rien, je me suis rendu compte que je la comprenais pas, que je la voyais pas, que j'avais perdu le contact. Et ça, quand on veut écrire des romans, c'est, je trouve que c'est une faute professionnelle assez lourde.
Et pourquoi vous avez perdu le contact avec cette France-là ?
Parce que je la vois plus, je fais partie de l'élite mondialisée maintenant, typiquement. Ben oui, j'exporte même en Allemagne, enfin, c'est dingue, quoi.
Et pardon, Michel Houellebecq,
et pourtant, je viens de cette France.
Vous faites vos courses ?
Non, mais elle habite pas dans le même quartier que moi, elle habite pas à Paris, déjà. À Paris, Le Pen n'existe pas.
La voix de Michel Houellebecq, puisque paraît un nouveau Houellebecq Sérotonine chez Flammarion. Nous sommes en compagnie d'Aurélien Bélanger et d'Agathe Novak-Lechevalier. Vous êtes professeur de littérature. Vous êtes penché sur Houellebecq et c'est très étrange de voir que cet homme qui est perçu comme décrivant de manière pertinente la France, puisque vous récusez le terme de prophétique, eh bien cet homme se dit coupé à un mode d'existence qu'il dépeint comme étant celui d'un écrivain cosmopolite. Comment expliquer en quelque sorte que ce soit lui qui est la peinture la plus précise, en tout cas pour certains, de la France d'aujourd'hui ?
Moi, j'avais été très frappée par cette interview et par l'idée de faute professionnelle. C'est une faute professionnelle pour un écrivain, dit-il. Je trouve ça extraordinaire et je pense que, en réalité, il avait tort. En réalité, il n'est pas si coupé de cette France qu'il le dit. En réalité, c'est celle qu'il décrit. Et par ailleurs, c'est en effet la France dont il vient. Sérotonine, c'est aussi une sorte de retour aux origines. Michel Thomas, puisque c'était son nom de naissance, il a pris le nom de sa grand-mère qui s'appelait Henriette Houellebecq, qui l'a élevée comme nom de plume. Et cette Henriette Houellebecq, elle venait de la Manche, qui est le lieu où se passe l'essentiel de Sérotonine. C'était une famille d'origine populaire, dans un milieu agricole aussi. Ça a poursuivi Houellebecq, d'ailleurs, qui a fait des études en agronomie, et il retourne à ça. Mmh. Et je pense que, en réalité, il n'est pas coupé de tout cela, et en tout cas, s'il a eu le sentiment d'en être coupé à un moment, il a fait retour vers tout ça pour combler cette faute professionnelle dont il parlait.
Michel Houellebecq est un écrivain connu, ça ne signifie pas que tout le monde l'acclame. Alors, parmi les critiques, il y a de bonnes critiques, et puis il y a des critiques qui sont nettement moins louangeuses. Aurélien Bélanger, il y a notamment dans ce roman, et pas uniquement ce roman de Michel Houellebecq, une tendance à la provocation. C'est un peu une sorte de troll littéraire, Houellebecq.
À la page 10, je crois, il y a un long éloge des intuitions économiques géniales de Franco, qui a compris qu'en fait l'Espagne n'avait aucune chance avec l'industrie et qu'il fallait la tourner dès les années 60 vers le tourisme mondialisé. Donc oui, on lit et c'est même problématique parce que on rit presque au second degré, on rit de voir Houellebecq tenter une nouvelle provocation et la réussir. De même, 150 pages plus loin, avec la pédophilie, on se dit tiens, en fait, ce domaine qui n'avait pas abordé.
La zoophilie.
Zoophilie, c'était peut-être aussi nouveau. Zoophilie, c'est peut-être le point le plus problématique. Les deux autres, on y croit un peu sur Franco, sur la pédophilie, ses provocations sont assez fines. La zoophilie, il y a un côté, je le fais quand même. Ce qui donnait, je pense, parfois un excès. Il y avait des scènes homoérotiques avec Étienne Moujotte, de mémoire, dans La carte et le territoire. C'était pas.
Bon, c'était pas très bien, Aurélien, donc on va pas insister là-dessus.
Non, mais c'était pas très bien senti. Là, il m'a semblé quand même que les provocations.
Étienne Moujotte, non, la zoophilie, en revanche.
Disons que les provocations, parfois sont bonnes, et là, elles étaient un petit peu meilleures. Après, oui, il y a un côté un petit peu, il y a un côté, pour le dire grossièrement, il y a un côté de funeste chez Michel Houellebecq. Il en fait des tonnes. C'est aussi ça qu'on vient voir parfois.
Ouais. Agathe Novak-Lechevalier, sa misogynie, elle ne peut pas être mise en défaut dans L'art de la consolation, le livre que vous lui avez consacré chez Stock. Vous dites que voilà, alors ça vraiment, ça fait partie des tartes à la crème sur Houellebecq, mais bon, c'est quand même très nettement présent dans ce livre, Sérotonine.
Mais alors, non.
Alors, allez-y, déployez votre argumentaire.
Non, je ne pense pas du tout que Houellebecq soit misogyne. Il décrit les femmes prises dans le système qu'il appelle le système libéral d'un point de vue sexuel, c'est-à-dire un système où il y a des vainqueurs et des vaincus et où les femmes sont dans cette lutte perpétuelle pour la séduction, pour voilà. Et dans le cadre de cette lutte, il décrit justement l'aspect tragique de la vie des femmes à partir du moment où elles atteignent la quarantaine et souvent même bien avant, et où elles voient leur corps décroître et donc leur seul pouvoir de séduction s'effriter. Voilà,
donc ce que vous voulez dire, c'est que c'est la société qui est misogyne et pas Michel Houellebecq.
Oui, d'une certaine manière. Et Houellebecq, au contraire, fait preuve souvent, si on lit ses textes sans a priori, voilà, on se rend compte que ces textes font preuve d'une grande empathie envers toutes ces femmes.
C'est une empathie froide.
Non, au contraire. Non. Et il le dit par ailleurs.
Alors, il y a par exemple un portrait de la petite amie du narrateur qu'on pourrait confondre avec Michel Houellebecq, mais on en reparlera tout à l'heure, Agathe Novak le Chevalier, où cette petite amie est réduite à un certain nombre d'actes qui sont des actes sexuels. C'est pas vraiment un beau portrait de femme.
Ah ben, de toute façon, c'est un personnage épouvantable. C'est sa petite amie. Il décide de disparaître complètement de la société pour pouvoir lui échapper. Donc, en effet, ça n'est pas un beau portrait de femme, c'est sûr. Mais si vous lisez Les Particules élémentaires, par exemple, vous voyez tout un portrait d'une grand-mère du personnage principal où il est dit. Cette femme avait tout donné dans sa vie par amour pour les autres. Elle avait passé sa vie à travailler par amour pour les autres. Et de tels êtres dans l'humanité ont existé. Et le texte se termine par « En pratique, ces êtres étaient en général des femmes ».
Aurélien Bélanger, il y a effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un côté quasiment stand-up, quasiment donc d'anecdotes, de scènes humoristiques dans ce livre de Michel Houellebecq. Il y a d'ailleurs dans le personnage aussi un certain nombre de choses qui relèvent de la provocation. J'ai sous les yeux par exemple une interview qui est publiée dans le Technicart de ce mois-ci où Michel Houellebecq explique, je cite, « YouPorn m'a apporté quelque chose vraiment ». Est-ce qu'il n'y a pas une forme de complaisance chez lui par un certain nombre de clichés qui sont finalement des clichés provocateurs, un peu potaches?
Ben, c'est compliqué parce que il est très baudelairien, Houellebecq, c'est une référence permanente. Et il y a quand même un texte de Baudelaire qui est l'un des plus énigmatiques pamphlets contre le rire qu'on n'a jamais écrit en français, en disant que le rire est vraiment ce qu'il y a de plus indigne chez l'humain. Et il met en scène, dans La possibilité du Nil, qui est un roman où le personnage principal est un comique, il met en scène un moment de brisure où soudain le comique n'en peut plus de faire rire les gens, voit leur visage atrocement déformé par le rire, et en conçoit, c'est quasiment un moment schopenhauerien, il en conçoit un dédain absolu pour cette humanité qui ne peut faire que rire. Donc il y a cette dialectique problématique du rire, c'est qu'en fait... faire rire les gens, c'est pas du tout une façon de les respecter. En fait, en général, le comique méprise les gens qu'il fait rire.
Agathe Novak le Chevalier.
Comme toujours chez Houellebecq, c'est extrêmement ambigu. C'est-à-dire que oui, en effet, il y a une détestation du rire sardonique. Baudelaire parle d'un rire satanique. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est détesté par Houellebecq. Mais justement, par exemple, dans Soumission, il parle du rire de Huysmans en disant Huysmans fait preuve d'un rire généreux, d'un humour généreux qui donne toujours un coup d'avance au lecteur et qui lui permet de rire, au lecteur de rire avant l'auteur. Je pense que ce rire toujours matiné d'empathie, c'est ce que pratique Houellebecq aussi.
On va continuer à évoquer le nouveau roman de Michel Houellebecq, Sérotonine, publié chez Flammarion en votre compagnie, Agathe Novak le Chevalier. Vous avez publié un cahier de Lerne, Michel Houellebecq, et puis ce livre Houellebecq, l'art de la consolation chez Stock. Vous serez rejoint ainsi que Aurélien Bélanger par Ariane Chemin, qui est grand reporter au Monde et qui s'est livré à un exercice de portrait de Michel Houellebecq dans Le Quotidien. En attendant, il est 8h sur France Culture. Et l'on reparle de Michel Houellebecq, puisqu'un nouveau Houellebecq est publié, Sérotonine. Il est publié chez Flammarion. Nous sommes en compagnie d'Aurélien Bélanger, d'Agathe Novak le Chevalier, qui a publié un cahier de Lerne sur Houellebecq et un livre intitulé Houellebecq, l'art de la consolation, et d'Ariane Chemin, grand reporter au Monde. Bonjour Ariane Chemin. Bonjour. Vous avez réalisé une série de portraits de Houellebecq et... Effectivement, ce qui frappe lorsqu'il est question de Houellebecq, c'est non seulement l'importance en matière de vente de ses romans, mais aussi l'importance du personnage, un personnage sur lequel il a été compliqué pour vous d'enquêter, ce qui en soi est révélateur de tout un système littéraire. Expliquez-nous pourquoi.
Oui, en fait, au Monde, on s'intéressait à Michel Houellebecq. Il se trouve que le directeur de la rédaction, le directeur du Monde, est un fan de Houellebecq. On s'est dit, c'était quelques mois après l'épisode de la tuerie de Charlie Hebdo, ce serait intéressant de raconter cet homme, cet écrivain qui, comme quelques autres en France, je pense par exemple à Jean d'Ormesson, est autant un personnage qu'un écrivain. C'est-à-dire qu'il aime se mettre en scène. Et on s'était dit, tiens, on va faire ce qu'on appelle nos fameuses séries d'été à épisodes. Et j'ai décidé d'enquêter sur Michel Houellebecq. Et c'est vrai que là, j'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas, puisque quand on est reporter, on évolue dans des milieux différents, ça peut être la politique, ça peut être... Et là, j'ai découvert un système, c'est-à-dire que Michel Houellebecq a mis en place une sorte de barrière autour de lui, et il a interdit, très vite quand il a compris que j'allais écrire sur lui, il a interdit aux personnes de me parler, à tous ces... et ça a marché. C'est ça qui, en fait, c'est l'intimidation qui m'a frappée. C'est-à-dire que de Frédéric Becbédé, en passant par Guillaume Nicloux, tous ces gens que je connais, qui m'avaient donné rendez-vous,
donc
tout le monde l'a annulé.
Voilà. Romancier, bref, l'entourage.
Et je me suis dit, au fait, c'est intéressant parce qu'on oublie souvent que le pouvoir, il est beaucoup dans le monde de la culture. C'est-à-dire que nulle part ailleurs, on pourrait imaginer que quelqu'un décide qui écrit sur lui, comment il écrit sur lui. Et c'est vrai qu'on l'a fait dans un exercice d'admiration. Moi, je tiens Michel Houellebecq pour un grand écrivain, l'écrivain contemporain le plus important, sans doute, avec quelques autres. Mais en revanche, ce qui m'a frappé, c'est que il choisit ceux qui écrivent sur lui. Moi, je suis par exemple sidérée de voir que pour illustrer Sérotonine, on n'a que des photos de son mariage. Hein. Donc, il s'est évidemment fait en accord avec lui-même. Bon, le témoin de mariage, Frédéric Becbédé, c'est lui qui chronique le livre dans le Figaro Magazine. C'est quand même assez rare. Hein. On a assisté peut-être à ça dans un genre très différent. Je dirais peut-être avec Jean d'Ormesson. Mais c'est tout.
Pourquoi Jean d'Ormesson? Parce qu'a priori, justement, ça n'est pas du tout la même fréquence médiatique. Alors, hélas, Jean d'Ormesson ne
Jean d'Ormesson, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Jean
d'Ormesson, c'est-à-dire qu'il était très souvent à la radio, à la télévision.
Jean d'Ormesson, il n'est pas traduit à l'étranger. Il est inconnu à l'étranger. Bon, moi, ça, c'est un avis personnel, mais je tiens son œuvre pour évidemment beaucoup moins importante que celle de Michel Houellebecq. Mais en revanche, dire du mal de Jean d'Ormesson ou dire qu'on n'aime pas, on trouve que l'œuvre de Jean d'Ormesson n'est pas intéressante, c'est très difficile aujourd'hui. C'est comme une sorte de crise de l'âge. Majesté. Et c'est très très français. Où, en Italie, en Angleterre, aux États-Unis, on fait du reportage et de l'enquête culturelle. En France, c'est impossible.
Mais il y a une autre différence entre Jean d'Ormesson et Michel Houellebecq. Il y en a plusieurs, hein, mais une sur laquelle j'aimerais revenir, Agathe Novak-Lechevalier. Et il y avait une présence de Jean d'Ormesson dans les médias. Il n'y a pas de présence de Michel Houellebecq au sens où il ne répond pas aux demandes d'interview, ou en tout cas, il le fait au compte-gouttes. Et cependant, son personnage a, en grande partie, phagocyter l'œuvre, brouiller l'œuvre, par exemple ses engagements politiques, ses phrases provocatrices sur l'islam, comment l'expliquez-vous?
Je pense que Houellebecq, à partir du moment où il a été très célèbre, à partir des Particules élémentaires, il a aussi déclenché des polémiques. Au point que...
À dessein?
Au moment des Particules élémentaires, pas du tout, je pense.
Quelle était la polémique au moment des Particules élémentaires?
On l'a accusé à ce moment-là de flou idéologique. On a encore une fois, une première fois...
On en a fait l'une des figures de proue, Lindenberg, en a fait l'une des figures de proue des néo-réactionnaires, des nouveaux réactionnaires. Ouais. Ce dont il s'est défendu, mollement défendu.
Il s'est défendu de manière très drôle en publiant un article et en appelant les anciens réactionnaires à accueillir dans leur rang les néo-réactionnaires et en demandant à ce que, en disant que, au bout du compte, l'article de Lindenberg créait un groupe qui n'avait aucune existence réelle juste avant. Peu importe. Mais le fait est que Houellebecq, de toute façon, agace parce que c'est quelqu'un qui est inclassable. Il est inclassable politiquement, il est inclassable aussi culturellement d'une certaine manière. C'est un romancier qui a une grande ambition littéraire mais qui vend énormément. Ça tranche avec l'image de l'écrivain qu'on a en général en France. C'est un écrivain mais pas seulement, il fait du cinéma, il fait de la chanson, il fait de l'art. Enfin, il est hors cadre et je pense que ça joue dans cette appréhension complexe qu'on a de Houellebecq aujourd'hui.
Ariane Chemin.
Alors moi, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je trouve que le génie de Houellebecq, c'est d'être écrivain de son époque. Qui mieux que lui raconte l'époque? Il le fait comme Balzac a pu le faire. Je trouve que c'est très intéressant ce que dit hier dans Le Monde des Livres Antoine Compagnon, qui dit au fond, il a réussi à, il écrit même comme son époque. Il dit.
Alors c'est Antoine Compagnon, qui est un grand professeur de littérature, il parle donc du talent de Houellebecq. Il le fait aussi avec une certaine forme d'ironie, puisqu'il dit voilà, il y a un style extrêmement plat, une structure.
Oui, mais des livres ça correspond au degré zéro de l'époque, dans mon souvenir. Hein. Il dit ça, il dit au fond, son style s'adapte à l'époque. Hein. Et c'est vrai que Michel Houellebecq n'est pas forcément un styliste, hein, mais c'est vrai qu'il saisit l'époque. Alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que je trouve que s'il a autant de succès, c'est que c'est l'écrivain de l'ère du temps, Michel Houellebecq. Et l'ère du temps, quoi qu'on en dise, il est plutôt réactionnaire. Alors, inclassable, je ne suis pas d'accord, parce que si on pense en catégorie gauche-droite, effectivement, ça ne marche pas, mais on ne pense plus aujourd'hui en catégorie gauche-droite. On voit que les décroissants sont à la fois à l'extrême gauche, à l'extrême droite. J'ai vu que José Bové faisait l'éloge de son dernier livre parce qu'il trouve qu'il a très bien compris l'agriculture aujourd'hui. Donc il est inclassable.
Le désarroi du monde agricole, puisque ce livre, Sérotonine,
il est quand même le reflet de l'époque, en ce sens que l'ère du temps est quand même à la réaction.
Pour resituer les choses, Sérotonine, donc ce roman qui est publié chez Flammarion, suit un homme qui est ingénieur agronome. Cet homme, cela va vous étonner, dans un roman de Houellebecq, n'est pas complètement heureux en amour et entretient des relations un peu compliquées, un peu glauques avec les femmes, tandis qu'en arrière-fond, il y a la crise du monde agricole français, laquelle se solde par des émeutes. Et c'est en cela qu'on peut dire qu'il peut préfigurer une situation que l'on a sous les yeux, tandis que l'on sait que ce livre a été terminé il y a au moins 6 mois, donc on ne peut pas dire que les passages qui évoquent cette émeute en France fassent référence à quoi que ce soit qui pourrait avoir lieu dans l'actualité. Il y a donc une dimension importante sur le plan politique de Houellebecq. Il y a aussi le fait que c'est un romancier. L'accusation qui a été faite, à mon avis, de manière assez sournoise dans cet article du Monde par Antoine Compagnon sur le fait que Houellebecq est un styliste plat, que les structures de ses livres sont assez simples. C'est-à-dire que ce que dit Antoine Compagnon, c'est qu'il y a un personnage puis un autre. Il n'y a pas des fils narratifs compliqués. Qu'en pensez-vous, Aurélien Bélanger?
Ben, strictement sur le style, ces phrases tombent toujours bien, donc il y a une sorte de justesse qui en fait l'agrément, ce qui a longtemps était... En fait, Houellebecq, c'est un grand écrivain français qui a un rapport compliqué au romantisme, parce que l'élégance française, en langue, jusqu'à à peu près Hugo, c'était très rationnel, des phrases très simples, très claires, très transparentes. Après, il y a eu cette digestion compliquée de la phase romantique, et on a fabriqué une sorte d'écrivain hybride, avec des phrases syntactiquement très compliquées, dont la caricature serait évidemment Proust. Et Houellebecq, c'est quand même un retour. C'était surtout frappant avec le précédent, Soumission. C'est un retour à une sorte de... presque à Cyrano de Bergerac, si on veut, à une sorte de façon d'écrire des fables futuristes dans une langue très très claire. Ou alors, on peut même penser à Candide de Voltaire. Donc c'est pas... stylistiquement, c'est pas anormal. Et surtout, faut voir que quand il apparaît, le roman français s'est auto-empoisonné lui-même dans des prouesses stylistiques qui tournent un peu à vide.
Bon, je vais faire quelque chose de pas bien et je vais prendre un extrait. Quelques minutes plus tard, après 2 ou 3 cigarettes, je prends un comprimé de Captorix avec un quart de verre d'eau minérale, en général de la Volvic. C'est un extrait du dernier livre de Michel Houellebecq, Agathe Novak Le Chevalier. Vous êtes professeur de littérature et il y a quand même une forme de style peut-être un peu plat, peut-être qu'Antoine Compagnon a raison de dire que c'est une littérature très accessible.
C'est une littérature en effet accessible, mais ça n'est pas pour moi un défaut. Et par ailleurs, alors oui, je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous dites que l'article de Compagnon est une attaque sournoise. Il dit que c'est un style plat qui reflète le degré zéro de l'époque et qui
c'est
par
pas
ailleurs
très gentil pour
voilà
et qui par ni ailleurs pour l'époque ni pour le romancier
et qui par ailleurs fait partie du business plan de Houellebecq. Donc il y a quelque chose ici d'extrêmement
il dit aussi d'extrêmement qu'il, à charge. Qu'il est obsessionnel sur un certain nombre de thèmes dont son sexe qui revient incessamment.
Oui, ce sont les thèmes houellebecquiens de manière générale. Mais Houellebecq a toujours dit, il a toujours repris la phrase de Schopenhauer qui dit « La première et la seule condition d'un bon style, c'est d'avoir quelque chose à dire. » Houellebecq a toujours détesté l'affaîtrie littéraire, la volonté de faire littéraire. Vous prenez cette phrase-là, on pourrait en prendre bien d'autres qui, au contraire, montrent un art du télescopage, un travail de l'effet de chute. Et au niveau de la construction romanesque par ailleurs, c'est une une construction souvent, contrairement à ce que dit Compagnon, c'est une construction souvent complexe, qui travaille les effets d'écho, qui travaille les superpositions temporelles.
Donc vous n'êtes pas d'accord?
Non, je ne sais pas. Comme vous le voyez, je ne suis pas d'accord. Mais bon.
Non, mais c'est important de le souligner. Puisque...
Oui, parce que au bout d'un moment, le fait de dire que Houellebecq a un style plat, c'est toujours la même manière de lui dénier la qualité littéraire, qui à mon avis est essentielle chez lui.
Non, mais moi je ne lui dénie pas du tout la qualité littéraire. Et la phrase que vous citez, moi je l'aime bien. J'aime ces détails chez Houellebecq, j'aime ce concret. Je trouve qu'il a de ça de commun, par exemple avec Agatha Christie, qui regarde tous les petits détails, qui se fascine, pour qui au fond l'intrigue de ses romans a peut-être moins d'importance que ces détails sur la société anglaise de l'époque, la tasse de thé. Donc ça j'aime bien ça. Ça j'aime bien ça. Je trouve que la phrase ne me choque pas du tout. Et son talent, d'ailleurs, c'est pas un hasard s'il y a un adjectif houellebecquien.
Ça veut dire quoi?
Ben Houellebecq, qui n'a pas dans sa vie quotidienne ne s'est pas dit un jour oh, c'est complètement houellebecquien. Tout le monde se dit ça, et c'est ça le talent d'un écrivain.
Alors il y a notamment parmi donc les caractéristiques houellebecquiennes, il y a effectivement un univers, il y a un certain nombre de thèmes aussi que l'on retrouve. Il y a par exemple comme thème la misère sexuelle masculine, puisque la sexualité chez Houellebecq ne peut être que glauque, l'amour ne peut être qu'un amour raté. Et dès lors, on se dit, Agathe Novak-Chevalier, que votre livre « L'art de la consolation » pour Houellebecq, c'est un titre là aussi assez provocateur.
C'est un titre paradoxal en effet, mais Houellebecq peint ce qu'il appelle la déliaison, c'est-à-dire un monde où l'individualisme a triomphé et où les relations humaines progressivement, dit-il, disparaissent. C'est ça le fond de la description du monde par Houellebecq. Or, quand je parle de consolation chez Houellebecq, c'est parce que déjà, pour plein de raisons que j'essaye de démontrer dans mon livre, mais une des raisons centrales, c'est que Houellebecq a toujours produit une littérature adressée, une littérature qui interpelle le lecteur. Dans Soumission, Houellebecq fait toute une grande déclaration d'amour à la littérature en disant que ce qui se passe entre un auteur et un lecteur, c'est plus profond, plus fort que la conversation d'un ami avec son ami. Il y a quelque chose de ça chez Houellebecq et qui, à mon avis, fonde en grande partie son succès, qui tient à la relation qu'il établit avec le lecteur.
Houellebecq, lecteur, c'est un homme qui a lu, il cite souvent des auteurs, il cite souvent par exemple Tocqueville, Aurélien Bélanger, et on voit qu'il y a une fréquentation de philosophes aussi. Nietzsche fait partie de ces auteurs.
Alors, ce qui est très singulier, c'est qu'il s'inscrit strictement dans l'histoire de la littérature française avec une mauvaise foi absolue qui lui fait nier l'existence d'une littérature française au XXe siècle. Il dit que du XXe siècle, il n'y aura que la science-fiction à sauver. Les mauvaises langues disent qu'il se raccroche à Paul Bourget, une sorte de littérature moraliste bourgeoise du début du XXe. Sans aller jusque-là, ça se voit dans son précédent, il met en scène un spécialiste de Bismance, il s'inscrit vraiment dans la continuation des grands écrivains français du XIXe siècle, et de tous les écrivains français de sa génération, c'est le seul à ne pas être fasciné par les écrivains anglo-saxons. En soi, c'est singulier, parce que c'est une masse écrasante pour beaucoup.
Il est à la fois immense lecteur, notamment de tous les romans du 19e siècle, et puis il est aussi très bon critique. Et il fait un peu de la critique en loose-dé, comme ça, dans ses livres.
Par exemple.
Et c'est toujours très drôle. Par exemple, il déteste Rob Grier. Il dit il ne restera rien du nouveau roman, qui était d'ailleurs un peu une sorte de concurrent, puisqu'il était aussi ingénieur agronome, si je ne me trompe, comme Michel Houellebecq. Et il dit, par exemple, qu'il trouve ridicule ces petites annotations dans les librairies de libraires qui disent très bon livre, avec une écriture ronde. Je me souviens d'avoir lu ça quelque part, où il disait c'est vraiment la critique comme je la déteste. Et donc il donne
des petits tacles. Il dit du mal de beaucoup de monde, parce qu'il dit du mal du surréalisme, il dit du mal de Prévert.
Oui. Il dit que le nouveau roman est mort, le surréaliste c'est nul, mais en même temps il revisite, par exemple, sa connaissance, enfin Agathe Novak Chevalier c'est mieux que moi, sa connaissance, la littérature du 19e est encyclopédique.
Ah oui, c'est quelqu'un qui a quasiment tout lu du 19e siècle, qui est absolument fasciné par Balzac, par Baudelaire, par Flaubert, enfin, et qui a lu aussi jusqu'aux théoriciens sociaux. Enfin, voilà, il a une connaissance encyclopédique du 19e, mais il lit aussi énormément les auteurs anglo-saxons. C'est un très très grand lecteur de science-fiction. Là, dernièrement, j'ai su qu'il avait découvert Somerset Maugham et qu'il avait absolument adoré ça, que c'était l'un de ses écrivains préférés. Il adore j'adore Dickens. Enfin, il y a quand même un fond de culture littéraire qui, d'ailleurs, apparaît particulièrement dans Sérotonine, où les références littéraires prennent une
Sérotonine,
dimension...
donc ce dernier roman qui vient d'être publié, qu'est-ce qu'il y a effectivement en matière de références littéraires dans ce livre ?
Il y a de tout. Il y a Proust, il y a Thomas Mann, il y a énormément Lamartine, qui est toujours une des grandes références houellebecquiennes, mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres.
On va écouter Michel Houellebecq évoquer la littérature qu'il aime.
La reconnaissance par les prix est une reconnaissance heureuse, parce que ça fait plaisir à l'éditeur aussi. Être dans le Robert, cité comme exemple, c'est une reconnaissance.
Être à l'école ?
Être dans un manuel scolaire, c'est une reconnaissance. Être dans... Faire l'objet d'une question pour un champion, c'est une reconnaissance, quoi. Faire l'objet de travaux universitaires, c'est une autre forme de reconnaissance. Mais au fond, la vraie reconnaissance, la plus forte, et celle qui compte, au fond, plus que tout, c'est d'être... aimé par des auteurs plus jeunes que vous et de les trouver bons. En fait, ça, finalement, la littérature, ça se passe par cooptation. Et moi, je le sais très bien comme lecteur. Hein, si j'ai lu un tel ou un tel, c'est parce que Baudelaire l'avait aimé ou il avait été influencé par Baudelaire. Donc, j'ai procédé comme ça, en faisant mon chemin à partir de quelques points de départ. Donc, la vraie reconnaissance, c'est celle-là.
Michel Houellebecq, au micro de Frédéric Taddeï, quand celui-ci était sur France Culture, Agathe Novak Le Chevalier. Il y a donc ces auteurs qu'il aime. Il y a la science-fiction, avec là aussi un ouvrage qu'il a consacré à Lovecraft. Il faut repréciser qui était Lovecraft et se dire qu'a priori, ça n'était pas évident de faire un ouvrage sur Lovecraft. Lovecraft, c'était considéré comme étant de la littérature de genre, avec ce que ça peut avoir de méprisant.
Oui, mais il fait partie de ces auteurs français, comme Emmanuel Carrère, par ailleurs, qui ont été vraiment très influencés par la science-fiction. Houellebecq rend hommage à Lovecraft, Carrère rend hommage à Philip K. Dick. Il y a quelque chose enfin, il y a un amour de la science-fiction chez Houellebecq, dont il dit que la littérature science-fictionnelle lui a donné le goût de lancer des hypothèses. Et je pense que ça fait une partie essentielle de sa littérature.
Lovecraft, c'est donc un écrivain qui met en scène une sorte d'univers gothique, avec, à titre personnel, une sorte de dérive vers la folie et vers un monde extrêmement noir politiquement, fascistoïde. Il y a donc dans cette fascination que Houellebecq a pour Lovecraft une sorte de fascination pour les destins troubles et pour une littérature qui n'avait pas de lettres de noblesse.
Lovecraft, c'est un auteur qui a fasciné beaucoup de jeunes adolescents. Houellebecq en fait partie, en effet. C'est quelqu'un qui joue aussi sur une littérature de la peur, du monstre, etc. Et en fait, je crois que Lovecraft mettait en scène des monstres terribles venus d'ailleurs. Pour Houellebecq, le monstre est souvent dans notre monde à nous. Ce monstre n'est pas un monstre extraterrestre. Ce monstre, c'est le vide qui hante la société actuelle.
Pas que, parce que Soumission, par exemple, était à cet égard son dernier roman avant celui-ci qui vient de paraître, Sérotonine, un roman où il est question d'un pouvoir exercé par l'islam politique en France, une manière de jouer avec les frayeurs contemporaines, un roman qui a été mal accueilli, à mon avis, à tort, par des gens qui souvent ne l'avaient pas lu. Peut-être revenir là-dessus, Agathe Novak-Lechevalier.
C'est-à-dire que surtout, Soumission a été un roman qui a été d'emblée illisible parce qu'il a été rattrapé par une actualité tragique. Donc on n'a pas pu lire Soumission comme un roman, on l'a lu en fonction d'une réalité et comme s'il s'agissait d'un essai.
Aurélien Bélanger.
Soumission, c'est pas un roman sur l'islam, c'est un roman sur le naturalisme. Et le naturalisme, c'est la vraie grande névrose de Houellebecq.
Le naturalisme, c'est-à-dire
comment vit-on spirituellement dans un monde scientifique, comment vit-on dans un monde qui nous explique que l'âme n'est qu'un ensemble de molécules. C'est pour ça que la récurrence des personnages de dépressifs chez Houellebecq est importante, parce que le Houellebecq, c'est vraiment par excellence le bon élève du naturalisme, et l'islam, par rapport à d'autres religions révélées, est la plus facilement naturaliste, parce qu'il n'y a pas Dieu qui débarque, c'est juste un prophète, donc c'est une sorte de relecture des textes. Et c'est vraiment comme ça qu'il met en scène l'islam. L'islam, c'est la seule religion qui est à peu près compatible avec un esprit naturaliste.
Ça, c'est un jugement qui vous appartient, Aurélien Bélanger. En tout cas, on voit les paradoxes du personnage. Cet homme qui décrit de manière extrêmement cruelle l'époque, qui ne rechigne pas ni au succès ni aux honneurs. Il vient d'accepter la Légion d'honneur. C'est étonnant, Ariane Chemin, ou au contraire, cela s'inscrit...
Non, parce que ce n'est pas un rebelle, Michel Houellebecq. Il s'est fabriqué quand même pendant très longtemps cette image d'écrivain maudit, y compris dans son aspect physique. Hein. Tout le monde disait, il ressemble à Céline. Mais il n'est pas un écrivain maudit. Hein. Il ne faut pas oublier que son concours, il le fait avec Nicolas Sarkozy. Quand il a carte blanche aux Inrecuptibles, la personne qu'il a envie d'inviter en 2016, c'est Emmanuel Macron. Je ne trouve pas que ce soit des choix de rebelles, hein. C'est moins qu'on puisse dire. Donc ça ne m'étonne pas. Je pense qu'il estimait, sans doute à raison, qu'il était peu reconnu en France par rapport à d'autres écrivains. Et je sais que, par exemple, c'est évident qu'il avait d'ailleurs été interrogé là-dessus. Si on lui demandait, on proposait de rentrer à l'Académie française, il adorerait. Il disait, je pense que j'apporterais beaucoup aux séances du dictionnaire. Alors, il a un petit peu un rival aujourd'hui avec Fabrice Luchini, qui était, comme on dit de manière un peu triviale, dans le même créneau. Mais l'Académie française, oui, c'est un amoureux de la langue. Pourquoi on lui refuserait? Je sais que Hélène Carrère-Danco, vraiment, il est favorable. On peut très bien imaginer qu'il y rentre aussi.
Mais dans le même temps, on peut se demander si c'est une bonne manière pour un écrivain d'être reconnu en ayant, par exemple, la Légion d'honneur, si ce n'est pas une manière, à nouveau, de susciter la machine à détestation, puisqu'il faut rappeler, là aussi, que Michel Houellebecq a publié un livre de conversation avec Bernard-Henri Lévy, sous le titre, je crois, « Ennemi public », avec une sorte de retour sur « deux détestations », Agathe Novak, le Chevalier.
En ce qui concerne la Légion d'honneur, j'avoue que j'ai appris ça donc hier, comme tout le monde, et j'ai surtout été très étonnée du fait qu'il ne l'ait pas déjà eu. Il a la Légion d'honneur au milieu de 350 autres personnes qui vont l'avoir. C'est assez étonnant. Là, il l'a. Bon, c'est toujours... c'est un côté un peu désuet, la Légion d'honneur. Moi, ça me fait rire de voir ça.
Le processus d'amour haine que la France entretient avec cet homme, y compris d'ailleurs à l'université, puisque vous qui êtes universitaire, qui avez publié sur Houellebecq un cahier de Lerne, un livre intitulé « L'art de la consolation » chez Stock, ça n'est pas nécessairement simple.
Ah non, ça n'est pas simple. Ça n'est pas simple parce que Houellebecq est quelqu'un qui est extrêmement clivant et qui dérange dans le milieu universitaire. En effet, il est très peu étudié en France. Il est beaucoup plus étudié finalement à l'étranger. Les premiers grands colloques universitaires sur Houellebecq ont tous eu lieu à l'étranger. Il y a eu un seul colloque qui avait été organisé par Bruno Viard à Marseille, mais c'est tout. Et de fait, c'est un écrivain auquel on renvoie toujours justement son fameux style plat, sa manière de voilà, qui n'est pas assez revendiqué comme littéraire pour passer dans le milieu universitaire.
Ariane Chemin.
Et qui vend trop son.
C'est vrai qu'effectivement, il y a eu très peu de colloques en France, effectivement. Je me souviens d'ailleurs, il assiste au premier rang aux colloques qui lui sont consacrés avec son petit crayon.
Au début, pas plus maintenant.
Mais en revanche, je ne suis pas d'accord avec vous, un écrivain qui dérange, mais est-ce que Michel Houellebecq dérange aujourd'hui? Personne. Il y a une sorte d'unanimité autour de Sérotonine qui est fascinante. Il ne dérange personne. Et la Légion d'honneur, en ce sens-là, est assez symbolique, je trouve.
Non, ce que je voulais dire par déranger, d'abord, il y a quand même des mauvaises critiques. Il y a une mauvaise critique dans le Canard enchaîné, il y a une mauvaise critique dans La Croix, et puis quand je parlais de déranger, le terme est peut-être mal choisi, mais en tout cas au sein de l'université, au sein donc de ceux qui étudient la littérature, on ne peut pas dire que Houellebecq soit
consensuel. Oui, c'est la France, malheureusement. Heureusement, les Américains sont plus malins, et effectivement, ils s'intéressent à Michel Houellebecq depuis longtemps.
Mais maintenant, de fait, il dérange. Si on veut critiquer ce livre, Sérotonine, on peut aussi dire qu'il y a une forme de gratuité. On parlait tout à l'heure de l'humour de ce roman, et il y a de l'humour, il y a aussi une peinture sociale de la France, mais il y a aussi une certaine facilité dans cet univers qui est un univers assez familier au fil des romans de Houellebecq. Il y a aussi un certain nombre de répétitions, peut-être des longueurs, Aurélien Bélanger.
Pour revenir sur le rapport de Houellebecq à la France, je pense son point de folie.
Il veut pas revenir.
Non, mais son point de folie que j'ai fini par identifier, c'est la posture christique en fait. C'est vraiment comme ça qu'il se représente de plus en plus lui-même. C'était déjà le cas dans l'extension du domaine de la lutte. C'est une sorte de montée au Golgotha, de crucifixion. Et là, il refait exactement la même chose. Et c'est une posture christique qui est crédible, dans la mesure où il se met en scène comme le plus désespéré des désespérés. Si lui est sauvé, alors ils le sauront tous.
Alors, je vais reposer ma question à laquelle vous ne voulez pas répondre, Aurélien Bélanger, à Agathe Novak-Lechevalier. Il y a un certain nombre de facilités d'écriture. Par exemple, il n'arrête pas de répéter dans ce roman « Je vous l'expliquerai un peu plus tard, j'y reviendrai un peu plus tard ». Bref, toute une série de choses qui peuvent relever, je ne sais pas moi, de fautes d'inattention ou...
Non, c'est un procédé littéraire tout à fait courant de quelqu'un.
Mais avec telle récurrence, est-ce que vous ne trouvez pas que cela confine à la lourdeur?
Moi, non. Y a un travail, de toute façon, dans Sérotonine qui joue justement sans arrêt sur les différentes strates temporelles et la manière dont on nous fait attendre le récit de ce qui... Enfin, le fond du fond. Donc, il y a ça qui est une mise en attente du lecteur qui, moi, ne me choque pas.
Dans ce cas-là, je vais me faire le critique de Houellebecq.
Oui, bien sûr.
Dans ce cas-là, lorsqu'il produit une phrase plate, on dit c'est merveilleux d'avoir à ce point le talent d'écrire des phrases plates. Quand il fait une phrase compliquée, on dit mais voilà quand même quel grand styliste. Lorsqu'il fait une répétition et un certain nombre de choses qui relèvent d'une construction un peu lourde, alors là on dit que c'est fait exprès. C'est quand même compliqué malgré tout de voir si tout ceci est lié à un talent particulier ou à une forme de désinvolture dans l'écriture?
Ben, je sais pas. Désinvolture dans l'écriture, franchement, j'y crois pas trop. De toute manière, le style de Houellebecq est un style qui, en effet, est extrêmement reconnaissable. Moi, ça me choque toujours quand on dit qu'il n'a pas de style, parce que c'est un style, au contraire, très affirmé, qui est très aisément pastichable. Et le fait qu'il y ait énormément de pastiches de Houellebecq montre bien qu'il y a un caractère très reconnaissable. Donc, on aime ça ou on n'aime pas ça. Mais voilà, le fait est qu'il y a un style qui est là, qui produit une œuvre. Alors après, oui, on peut être heurté, comme tout un chacun, par telle ou telle phrase. Mais bon...
Ariane Chemin, dans la série d'articles que vous avez consacrée à Michel Houellebecq dans le journal Le Monde, vous expliquez à quel point il a été difficile d'enquêter sur lui, à quel point il a des courtisans. C'est un système, Michel Houellebecq.
Écoutez, moi je l'ai découvert, je ne le savais pas avant d'entamer l'enquête, et je pense que ce qui l'a effrayé, enfin il a dit d'ailleurs, elle paye pour ceux à venir, ce qui l'a effrayé c'est que ce soit quelqu'un qui ne soit pas un journaliste spécialiste de la critique littéraire qui enquête sur lui. Moi j'ai trouvé ça très légitime à partir du moment où c'était un personnage, et d'ailleurs je me suis intéressée à des choses très concrètes. Par exemple, quand il écrit Soumission, il est allé passer quelque temps dans un monastère à Ligugé, moi je suis retournée à Ligugé pour voir comment il croquait ses personnages, comment il les choisissait, comment il les détournait. Ça m'a intéressée. J'ai aussi plongé, par exemple, dans sa jeunesse. Je racontais qu'il avait des liens avec le journal 20 ans, que ça a été très important. Et ça m'a paru intéressant. Ensuite, j'ai décortiqué effectivement la sortie de Soumission avec ce choc hallucinant, hein, qui n'est pas le premier, parce qu'on a oublié qu'en 2001, quand il sort Plateforme, c'est de nouveau une catastrophe, parce qu'on a le 11 septembre après, son personnage fait des critiques sur les Arabes, etc. Le 11 septembre, et il se cache, il va chez Michel Déon. Et Michel Déon a cette phrase qu'il m'avait racontée, il est mort aujourd'hui, mais que je trouve formidable, il me dit, c'est incroyable, Michel, il est toujours sauvé par l'actualité, on a oublié les provocations de son livre, et le 11 septembre l'a sauvé d'une certaine manière.
Et il y a une chose dont Michel Houellebecq n'a jamais douté, selon vous, Ariane Chemin, c'est de Michel Houellebecq.
C'est compliqué.
Vous évoquez par exemple son passage chez 20 ans, vous faites parler les personnes qui étaient dans ce magazine, un magazine féminin, expliquant que Michel Houellebecq refusait de faire telle et telle chose parce qu'il se voyait déjà comme un grand écrivain, alors qu'alors, il n'était pas encore connu.
Oui, mais ça, moi, je ne vais pas faire de la... Je trouve qu'il a raison, d'une certaine manière.
Non, je ne dis pas qu'il a raison ou tort, je dis juste que,
mais en
factuellement...
Qu'on rappelle ces années-là, ça ne m'y a pas plu. Et c'est vrai que ça m'a fasciné. Et j'ai découvert, je vous dis, ce pouvoir que je n'imaginais pas, qu'on ne trouve pas dans le monde politique, par exemple. Et d'ailleurs, il a fait un processus d'intimidation, puisqu'il nous a fait un procès, qu'il a perdu en première instance et en appel. Mais je suis sûre qu'il savait déjà qu'il le perdrait. Il n'y avait rien qui méritait procès, mais c'était de l'intimidation.
Agathe Novak-Lechevalier, justement, dans le fait de concevoir sa vie artistique, parce qu'effectivement, il s'est essayé à différentes formes d'art. Là aussi, c'est un paradoxe, puisque c'est un personnage qu'on pourrait croire peu assuré, il met en scène la dépression, il met en scène le désespoir, et cependant, il s'est essayé à différents types d'expressions artistiques.
Oui, mais je pense que, enfin, de la confiance en sa capacité d'écrivain, il en fallait pour y arriver de là où il venait. Enfin, c'est pas du tout quelqu'un qui vient du sérail, c'est quelqu'un qui est arrivé dans ce milieu littéraire absolument.
Il arrive en disant « Je suis le nouveau Pérec ».
Oui, un peu. Il y croit, en effet. Il s'est avant tout vu comme un poète. Hein. Et je pense que dans toutes les formes qu'il explore, il y a une manière de tenter de nouvelles formes de poésie. Je pense que dans ses expériences d'acteur et dans ses photographies, etc., il y a un lien avec la poésie qu'il pratique moins actuellement, mais qu'il remet en scène par ses biais différents.
Un petit mot de conclusion, Ariane Chemin.
Oui, parce qu'on dit il dérange, il déroute. Par exemple, le fait qu'il soit à la fois merveilleux acteur, d'ailleurs. Hein. Oui. Il fait un peu tout, il chante. C'est typique de l'époque. C'est ce qu'on appelle la slash génération. Je suis écrivain, chanteur, auteur. Et donc, même ça, ça n'est pas tellement original. Donc, c'est ça que je trouve intéressant. C'est comment on se construit en poète maudit et comment, au fond, on est mainstream.
Et alors, Aurélien Bélanger, est-ce que Houellebecq a une postérité? Est-ce qu'on peut être houellebecquien? Est-ce que vous êtes houellebecquien, par exemple? Puisque vous avez publié en 2010 un ouvrage sur Houellebecq.
Je pense qu'il a sorti la littérature française d'un marasme qu'a presque manqué la tuer. Donc tout écrivain français d'aujourd'hui est houellebecquien, je pense.
À ce point?
Oui, c'était pas brillant les années 90, avec le recul, les années 80-90.
Oui, mais il y avait quand même eu des choses avant, après.
Il y a d'autres
formes littéraires, je ne sais pas.
Disons qu'on a toujours parlé.
Claude Simon, alors peut-être qu'Agathe Novak, le Chevalier, dirait que c'est de la fêterie, Claude Simon.
Non,
c'est pas un
marguerite
sur ça. C'est quoi, Houellebecq? On lui a toujours demandé de se positionner par rapport au nouveau roman. Le nouveau roman, quand Houellebecq apparaît, a déjà 40 ans. Donc c'est bien la preuve qu'il y a eu un vide.
Bon, en tout cas, cela m'a permis de lire les œuvres de jeunesse d'Aurélien Bélanger qui disait de Michel Houellebecq, il faut qu'il parvienne, je vous cite, miraculeusement à désespérer de son désespoir. C'est un peu une chute pour journaliste fatigué quand même, Aurélien.
C'est en cela qu'il tente d'être christique, que le bon élève du naturalisme va nous apporter quelque chose. Son vrai fantasme littéraire, Houellebecq, c'est Novalis. C'est un ingénieur allemand des mines qui devient le plus grand poète romantique.
Merci en tout cas de nous avoir éclairé sur ce nouveau Houellebecq, Sérotonine. Il est publié chez Flammarion, Agathe Novak, le Chevalier, Houellebecq, l'art de la consolation chez Stock et votre cahier de Lerne qui est consacré au romancier. Merci également à Ariane Chemin de nous avoir expliqué comment vous avez enquêté sur l'auteur. Voici maintenant un nouveau Aurélien Bélanger.